Cathy Bisraor, bonjour.
Bonjour Paul.
Bon, alors on est les champions, Cathy.
Absolument, et pas les champions seulement, ici également en Israël, on a fait la fête, il fallait voir ce qui s'est passé hier à Netanya ou sur le boulevard Rothschild, Paul. Les Israéliens ont fait la fête avec la France.
Et la mairie de Tel Aviv a arboré le bleu, blanc, rouge du drapeau français. C'est dire si la communauté juive de France a aujourd'hui une place en Israël.
Une énorme place. Et puis, vous parliez de ce drapeau bleu, blanc et rouge sur les façades, hein, sur la façade de la municipalité de Jérusalem. Mais vous savez qu'est-ce qui fait le buzz depuis quelques heures en Israël sur les réseaux sociaux? C'est une vidéo de quelques secondes où l'on voit une vingtaine de soldats israéliens avec des drapeaux français qui chantent la Marseillaise en français. Et c'est ça qui fait le buzz.
Alors, à côté de la liesse et à côté de la joie, il y a évidemment l'actualité politique. Une actualité qui a été particulièrement lourde et douloureuse ce week-end, avec plus de 200 roquettes et tirs de mortier en provenance de Gaza, lancés par le Hamas sur le territoire israélien, et une réplique israélienne.
Oui, une réplique israélienne très musclée, puisqu'il y a eu des dizaines et des dizaines de raids. Et je crois que ce qu'on peut dire de ce week-end, c'est on va en arrière de plusieurs années, presque l'été 2014, la guerre de 2014, une véritable situation de guerre. Vous dites plus de 200 roquettes, le dôme de fer a dû fonctionner à plusieurs reprises. Et malheureusement, il y a eu également des tirs qui n'ont pas été repérés par le dôme de fer. Il n'y a même pas eu de sirène, comme cette fameuse maison de Sderot qui a été touchée de plein fouet, où plusieurs membres de la famille ont été blessés sérieusement, notamment cette jeune fille de 15 ans qui est grièvement blessée, qui a dû être opérée une cinquième fois cette nuit avec des éclats de ces roquettes sur l'ensemble de son corps et de son visage. Pour vous dire donc, véritablement, le traumatisme de toute cette population du Sud. Il s'agit de milliers et milliers de personnes qui ont vécu pendant un week-end carrément dans une situation de guerre.
Est-ce qu'on peut expliquer cet enflammement qui paraît soudain? Alors on sait qu'évidemment il y a des affrontements avec les cerfs-volants et les ballons qui ont pour tâche meurtrière de décimer des champs et de toucher particulièrement l'agriculture israélienne et la nature israélienne. Mais pourquoi est-ce que le Hamas décide soudainement d'envoyer 200 roquettes sur Israël?
Oui, alors, évidemment, le Hamas, ils ont leur propre version. Ils expliquent le fait parce que Israël a tiré quelque part contre des terroristes pour Israël qui tentaient de passer la frontière. Et donc, en réaction, ils ont commencé à tirer des roquettes. Israël a fait des raids et donc les roquettes ont continué, etc. On connaît, si vous voulez, l'enchaînement dramatique de la violence et de la guerre. Mais si on reprend, si vous voulez, Paul, l'historique des relations entre Israël et Gaza depuis le retrait d'Israël de Gaza, en fait, c'est une permanence. En fait, alors, ça va avec une situation en dents de scie, une fois c'est un peu moins, une fois c'est un peu plus, mais le Hamas a fait un choix stratégique hein, sur le long terme d'un conflit, de maintenir une situation de conflit avec Israël. Et quelquefois, on voit ce qui s'est passé donc, pendant ce week-end, avec véritablement une flambée qui peut malheureusement, et c'est ça le risque, se transformer carrément en guerre, de type de guerre de 2014.
C'est l'Égypte qui a joué les médiateurs, j'ai presque envie de dire une fois de plus, et qui a réussi à arracher un cessez-le-feu, une situation finalement qui arrange tout le monde.
Oui, c'est un cessez-le-feu, mais avec beaucoup de prudence. Et comme nous venons de le dire, maintenant il y a le cessez-le-feu, mais si dans quelques jours vous entendez qu'il y a de nouveau des roquettes et de nouveau des raids de l'armée de l'air israélienne, personne ne sera surpris. Pourquoi? Parce que le Hamas n'a pas eu le choix, si vous voulez, d'écouter et d'accepter ce que lui imposait le président Sisi, qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Hamas est beaucoup plus dans le giron de l'Iran, dans le giron de l'axe chiite, que dans l'axe égyptien. Et c'est bien là le fond du problème, c'est que l'Iran, le Hamas est non seulement financé mais également entraîné par l'Iran, et donc si vous voulez la capacité de l'Égypte à modérer la situation comme elle avait toujours fait depuis des années est tout de même beaucoup moindre que dans le passé.
Le président russe Vladimir Poutine a reçu au Kremlin ce week-end le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, quelques jours simplement après s'être entretenu à Moscou avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. De quoi ont-ils parlé? Du processus de paix? Est-ce qu'on en parle encore?
Oui, le processus de paix qui n'existe pas pour l'instant, en tout cas, on ne sait strictement rien sur cette fameuse initiative de paix. J'ai presque envie de dire que la rencontre entre Poutine et Abbas était une rencontre pour mettre un V, si vous voulez, pour dire, voilà, je l'ai rencontré. Vladimir Poutine rencontre régulièrement Benjamin Netanyahou, beaucoup plus qu'il le fait avec Mahmoud Abbas. Et cette initiative, en tout cas selon la presse russe et également la presse israélienne, a été une demande express du président palestinien pour dire un petit peu à Vladimir Poutine, ok, vous rencontrez beaucoup Benjamin Netanyahou, je comprends, c'est sur l'affaire l'axe syrien, mais je veux également vous rencontrer. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on doit comprendre cette rencontre entre Poutine et Abbas.
Et toujours, c'est une question que je vous repose souvent, Cathy, mais ça me paraît important. On va tout de suite parler de la Syrie, avec un site militaire bombardé par Israël à Alep. Alors, il n'y a pas une confirmation officielle de la part des Israéliens. Elle n'est pas en tout cas arrivée jusqu'en France. Mais les Syriens, eux, sont absolument certains de la chose et affirment avoir été bombardés par les Israéliens. J'imagine que Poutine était au courant.
Oui, c'est sûr que Poutine était au courant. Israël ne peut pas agir sur le territoire syrien sans le feu vert tacite de la Russie, puisque toute la défense anti-aérienne syrienne actuellement est sous le contrôle des Russes. Et donc, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que Benjamin Netanyahou a engagé un dialogue avec Vladimir Poutine pour garder une marge de manœuvre sur le territoire syrien. Benjamin Netanyahou veut envoyer ses F-16 et ses F-35 maintenant sur le territoire syrien quand il le veut, et pour ça, il a besoin donc du feu vert de Vladimir Poutine. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, que c'est jamais, en général, jamais confirmé par Israël, mais tous les sites et toutes les informations sûres et connues de la Syrie montrent que bel et bien, de nouveau, les Israéliens ont agi. Cette fois, c'était dans la zone d'Alep. Et c'est un lien, c'est ce que l'on explique en Israël, avec la perte de contrôle des rebelles à la frontière avec le Golan et l'arrivée de Bachar al-Assad et aussi quelque part des milices pro-iraniennes. Et donc Israël, selon en tout cas les analyses, tenterait de renforcer les rebelles qui se trouvent encore, si vous voulez, dans cette base, dans cette zone d'Alep.
On va conclure, Cathy Bisraor, avec un scénario à la James Bond, des révélations sur le vol des archives iraniennes. C'est ces fameuses archives qui avaient permis à Benjamin Netanyahou de montrer au monde l'implication iranienne dans sa course-poursuite à la faveur de l'arme nucléaire.
Oui, c'était ces archives ultra secrètes. En fait, tout ce que les Iraniens voulaient cacher au monde, avec en arrière-plan le fameux accord sur le nucléaire qui avait été signé par Barack Obama, tous les secrets iraniens qui prouvaient que bel et bien l'Iran a été et en direction du nucléaire, en fait, se trouvaient dans ces archives. Et le New York Times et deux autres journaux américains, certainement bien renseignés par les renseignements, par le Mossad israélien, racontent exactement comment ça s'est passé, en donnant même la date du mois de janvier 2018, comment ils ont attendu pendant deux ans en cherchant où se trouvait ce site, ensuite en l'observant pendant un an, et ensuite, en moins de quelques heures, en fait, ils ont réussi à pénétrer dans ce site ultra secret, à faire exploser ces coffres-forts, 32 coffres-forts, et amener avec eux des milliers de tonnes, impressionnant évidemment, de matériel. Et le New York Times précise que lorsque les Iraniens sont arrivés le lendemain matin, comme si de rien n'était, pour ouvrir et voir ce qui s'est passé, ils ont été évidemment effarés, mais c'était déjà trop tard. Les agents du Mossad se trouvaient déjà loin avec tous leurs archives en direction de l'État d'Israël par deux pays tiers. Comme nous l'avons dit, c'est mieux qu'un vrai James Bond.
Merci infiniment, Cathy, pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine.